Elle dit, se détourne et s'éloigne. Alors son front de rose brille d'un éclat céleste. La douce odeur de l'ambroisie s'exhale de ses cheveux divins. Sa robe se déploie mollement sur ses pieds immortels. Vénus marche. Son port révèle une déesse. Le héros a reconnu sa mère, et triste, suivant des yeux sa course fugitive. Quoi? Vous aussi, cruel? Vous abusez par des images trompeuses un fils qui vous implore? Sa main est-elle indigne de presser votre main chérie? Ne puis-je, hélas, vous parler, vous entendre, sans qu'un voile étranger vous dérobe à mon amour? Tels étaient ses reproches, et ses pas se dirigent vers la cité nouvelle. Aussitôt, Vénus, attentive, enveloppe d'un nuage obscur le couple voyageur, et l'environne d'un rempart nébuleux. Ainsi cachés aux regards de la foule, inaccessibles à ces flots importuns, ils échapperont dans leur marche aux dangers des retards, aux vains discours d'un peuple curieux. Pour elle, s'élevant dans les airs, elle vole à Paphos et se plaît à revoir son riant séjour. Là, dans un temple majestueux, sur 100 autels consacrés à sa gloire, l'encens de l'Arabie fume en l'honneur de la déesse et mêle ses doux parfums à ceux des fleurs toujours nouvelles. Cependant, les deux guerriers se hâtent, et le sentier qui les guide s'abrège devant eux. Bientôt, ils ont gravi les flancs de la montagne, dont le sommet domine au loin la plaine, et d'où l'œil plane en liberté sur les tours de Carthage. Aînés surpris, admirent ces palais somptueux, naguère humbles chaumières. Il admire l'aspect imposant de ses portes et ses parvis superbes, et leurs bruyantes avenues. Quel mouvement partout, quel vivant tableau! Les uns prolongent la chaîne des remparts, où dressent un fort menaçant. Leurs mains laborieuses roulent d'énormes roches. D'autres marquent la place où seront leurs toits domestiques et l'entourent d'un sillon. Ailleurs, l'État proclame ses magistrats, ses lois et son sénat auguste. Ici, des ports se creusent. Là, s'affermissent les fondements d'un vaste amphithéâtre. Et déjà taillé dans le roc, le marbre s'arrondit en colonnes immenses, majestueux ornements de la scène future. Telles on voit les abeilles se répandre au printemps sur les mailles des prairies et s'animer au travail sous un ciel sans nuages. L'une conduit le jeune essaim, déjà fier de ses ailes, l'autre épaissit un miel liquide et remplit ses cellules d'un doux nectar. Celles-ci reçoivent les trésors qu'apportent leurs compagnes. Celles-là, réunies en bataillon, repoussent de la ruche le frelon parasite. Tout s'empresse à l'ouvrage, et le thym odorant s'exhale des rayons embaumés. Ô fortuné le peuple dont s'élèvent ainsi les murailles, dit le fils de Vénus. Et le héros contemple, en soupirant le fait altier des édifices. En même temps, saint de la nue merveilleuse, il se mêle, ô prodige, parmi les flots des Tyriens, et présent à leurs yeux, il n'en est point aperçu. Au centre de la ville était un bois religieux, couronné d'un riant ombrage, et dont les Phéniciens avaient cherché l'abri, quand la tempête les eut jetés sur ses bords. En y fouillant la terre, ils découvrirent dans ses entrailles la tête d'un coursier belliqueux, noble gage des faveurs de la puissante Junon, signe heureux des exploits et de l'abondance réservée un jour aux enfants d'Agénor. Dans cette enceinte vénérée, Didon bâtissait pour la reine des dieux un temple magnifique, orné de riches offrandes et des images de la déesse. 100 degrés conduisaient à son vaste portique. Le bronze en couvrait les colonnes, le bronze en décorait les voûtes, et l'airain des gonds mugissait sous des portes d'airain. Là vient enfin s'offrir au regard d'aîné un spectacle qui le rassure. Là, son âme ose enfin s'ouvrir à l'espoir du salut et se flatter d'un moins triste avenir. Tandis qu'en attendant la reine, il promène dans ce temple pompeux son muet étonnement, tandis qu'il admire en silence la fortune de Carthage et la nature et l'art prodiguant pour l'embellir leurs miracles divers, il voit représenter sur des tableaux fidèles la longue suite des combats d'Ilion et ces conflits mémorables dont la renommée a déjà rempli l'univers. Il voit le fier Atride et le malheureux Priam et l'implacable Achille, Achille fatal à tous les deux. À cet aspect, Aîné s'arrête et, les yeux mouillés de larmes, « Quel climat, cher Achate, quel coin du monde aujourd'hui n'est plein de nos désastres ? Voilà Priam. Ainsi donc, jusqu'en ces déserts, il est un prix pour la vertu, il est des pleurs pour l'infortune. Et l'homme y compatit aux maux de ses semblables. Bannis la crainte, l'éclat de nos revers nous servira d'égide. » Il dit. Et sa douleur aime à se nourrir de ces vains simulacres. Chaque objet lui rappelle d'affligeants souvenirs, et des torrents de larmes inondent son visage. Là se retraçaient à sa vue tant d'horribles rencontres, dont le choc fit trembler Pergame. D'un côté, les Grecs vaincus reculent, et la jeunesse troyenne poursuit leurs débris épars. De l'autre, l'épouvante a dispersé les Phrygiens, et sur eux fond Achille, poussant son char rapide, agitant son panache affreux. Non loin s'élèvent les pavillons de Rhésus. À leur éclatante blancheur, Aîné les reconnaît en gémissant. Conduit par un traître dans l'ombre de la nuit, le cruel Diomède les a souillés d'un long carnage, et, tout couverts de sang, ils chassent au camp des Grecs les bouillants coursiers du monarque, avant qu'ils aient goûté les pâturages de Troie et bu les eaux du Xanthe. Ailleurs fuit, désarmé, le jeune et malheureux Troïle, trop faible rival de l'indomptable Achille. Emporté par ses chevaux, et renversé de son char, où ses pieds s'embarrassent, il tient encore les rênes. Sa tête échevelée heurte en bondissant la terre, et le fer de sa lance sillonne au loin l'arène. Cependant les Troyennes s'avançaient, les cheveux éparses, vers le temple de Pallas irrité. Tristes et suppliantes, elles portaient à la déesse le voile précieux, tissu pour la fléchir, et se frappaient la poitrine dans leur marche plaintive. Pallas détourne un œil sévère et repousse leur offrande. Après avoir traîné 3 fois Hector autour des murs de Troie, Achille vendait au poids de l'or son cadavre défiguré. En apercevant ses dépouilles, en voyant ce char funeste, et ses froides reliques d'un ami, et Priam tendant ses mains suppliantes au vainqueur en courroux, le fils d'Anchise sent redoubler ses amers déplaisirs, et de longs sanglots s'échappent de son cœur déchiré. il se retrouve lui-même, luttant au fort de la mêlée contre les plus vaillants des Grecs. Près de lui, les phalanges de l'Orient et le noir Memnon sous sa brillante armure. À côté, les fières Amazones agitent le croissant de leur pavois d'airain. L'audacieuse Penthésilée les guide. Parée d'une écharpe d'or et le sein découvert, elle affronte, mâle héroïne, les plus épais bataillons, et plus d'un guerrier fameux pâlit au cou d'une femme. Pendant que ces merveilles captivent le généreux chef des Troyens, pendant qu'Énée les contemple en extase, et ne peut en détacher ses avides regards, la reine de Carthage, la belle Didon, s'avançait vers le temple, entourée du pompeux cortège de la jeunesse tyrienne. Telle au bord de l'Eurotas ou sur les hauteurs du Sainte, Diane préside à ses danses solennelles. Rassemblés sur ses pas, le cœur nombreux des Oréades se groupe autour de la déesse. Elle marche. Un carquois d'or résonne sur ses épaules. Et dans son port majestueux, elle surpasse de la tête les immortels qui l'environnent. Latone sourit à tant de charme. Et son cœur maternel palpite d'un doux orgueil. Telle se montrait Didon, telle, unissant la noblesse et la grâce, elle fendait les flots d'un peuple respectueux, animait les travaux et pressait l'édifice de sa grandeur future. Bientôt, elle touche le seuil du sanctuaire. Là, sous un dôme spacieux, escorté de ses gardes, et montée sur un trône éclatant de splendeur, elle s'assied au milieu du temple. Tandis qu'elle proclame ses arrêts et dicte des lois à l'État, qu'elle distribue les différents travaux au gré de sa justice ou les partage au gré du sort, tout à coup, le héros, au milieu d'une foule immense, voit arriver Antée, Sergeste et l'intrépide Cloanthe et la fleur des Troyens, que naguère les noirs Aquilons avaient égaré sur les eaux et jeté loin de lui sur des plages inconnues. Frappé d'étonnement, Énée demeure immobile, Achate respire à peine, et la joie et la crainte les agitent tour à tour. Ils brûlent de courir, d'embrasser les amis que le ciel leur envoie. Mais une secrète inquiétude les trouble et les arrête. Le fils d'Anchise dissimule, et toujours invisible sous la nue qui l'entoure, veut apprendre, avant de la rompre, quel accueil attend ses guerriers, quel rivage a reçu leur flotte, quel espoir enfin les amène. Envoyé des nefs échappées au naufrage, il venait implorer le respect qu'on doit au malheur, et leurs cris suppliants assiégeaient les portes du temple. Admise au pied du trône, Didon permet à leur douleur d'y déposer sa plainte. Alors, d'un ton noble et modeste, Ilionée parle en ces termes. Reine auguste, ô vous que les dieux ont choisi pour fonder un nouvel empire et soumettre au frein des lois des nations superbes. D'infortunés Troyens, embrasse vos genoux. Jouets des vents, rebut des flots, c'est à vous qu'ils ont recours. Ah, sauvez nos vaisseaux que menacent les flammes, épargnez un peuple pieux, et jetez sur nos disgrâces un œil compatissant. Nous a-t-on vu, le fer en main, ravager les champs de l'Afrique, ou regagner les mers chargées d'un infâme butin? Non, ces fureurs ne sont point dans notre âme. Et tant d'audace convient mal à des vaincus. Il est un lieu connu des Grecs sous le nom d'Hespérie. Terre antique, terre féconde en valeureux soldats, en riches moissons. Jadis occupée par les enfants d'Enotrus, on l'appelle Italie, depuis que Italus y régna. C'est là que tendait notre course, quand soudain, levé sur les ondes, l'orageux Orion nous pousse contre des bancs perfides, nous livre aux eaux tant déchaînés, aux vagues mugissantes, et nous disperse à travers le gouffre écumant parmi des rocs inaccessibles. À peine un faible nombre a pu toucher vos bords. Mais quels hommes les habitent? Quelles contrées sauvages autorisent de pareilles mœurs? On nous dispute l'asile du rivage. Le glaive nous repousse et la terre nous refuse un abri. Cruel, si vous bravez les lois humaines et les armes des mortels, redoutez au moins les dieux qui savent punir le crime et venger l'innocence. Sur nous régnait un prince fameux par sa vertu, le grand aîné, qui n'eut point d'égal en sagesse, en vaillance, en exploit. Si les destins veillent sur lui, s'il respire encore l'air que nous respirons, s'il ne dort point du sommeil de la mort, plus de soins pour nous, plus d'alarmes. Et vous, reine, en prévenant ses vœux par vos bienfaits, ne craignez point un repentir. Il nous reste encore, aux plaines de Sicile, et des villes et des armées. Le beau sang de Dardanus y revit avec gloire sur le trône d'Aceste. Qu'il nous soit permis de recueillir sous vos auspices les débris de nos vaisseaux, de réparer dans vos forêts les outrages de la tempête, d'y préparer de nouveaux mâts et des rames nouvelles. Alors, si l'Ausonie ne nous est point fermée, si nos compagnons d'armes, si le héros qui nous guidait, sont rendus à notre amour, nous voguerons avec joie vers la douce Ausonie, vers l'heureux Latium. Mais s'il n'est plus de salut, si les mers de Libye, ô généreux père des Troyens, ont englouti tes jours, si l'espérance d'Iule est éteinte avec toi, que nous puissions du moins revoir les rives sicaniennes et ces demeures fraternelles, d'où les vents ennemis nous ont jetés sur vos écueils, et cet empire d'Aceste, dernier refuge de nos malheurs. Ainsi parlait Ilioné. Les Troyens, charmés de l'entendre, applaudissaient à son discours par un murmure flatteur. Didon, les yeux baissés, répond en peu de mots. Rassurez-vous, enfants de Troie, bannissez d'importuns soucis. La rigueur des circonstances et la nouveauté de mon règne me font une loi sévère de cet appareil menaçant. Et ma prudence borde au loin de soldats mes frontières sans défense. Qui ne connaît le sang d'aîné? Qui ne connaît Pergame et sa puissance et ses combats? Et l'immense incendie qu'alluma sa querelle. Tyr n'est point assez barbare pour ignorer tant de hauts faits, et le soleil n'attelle point son char si loin des tours d'Agénor. Soit que vos destins vous appellent vers la grande Hespérie et les champs de Saturne, soit que vous cherchiez une retraite dans les campagnes d'Eryx et les domaines d'Aceste, comptez sur mon secours. Mes trésors vous sont ouverts. Aimez-vous mieux vous fixer avec moi, dans mes naissants états? Les murs que j'ai bâtis seront désormais les vôtres. Confiez vos nefs à ses rives. Troyens et Phéniciens seront égaux à mes yeux. Et plût au ciel que votre roi, qu'aîné, conduit par les mêmes vents, eût touché ses bords avec vous. Mais de fidèles émissaires vont, par mes ordres, interroger la côte. Je veux qu'on fouille jusqu'aux bornes de l'Afrique. Et s'il erre, égaré dans quelque forêt sauvage, dans quelque cité lointaine, espérez bientôt son retour. À ces paroles consolantes, déjà le bouillant Achate, déjà le sage aîné, brûlait d'écarter le nuage. Achate enfin rompt le silence.
fils de Vénus, balancez-vous encore? Vous le voyez, plus de péril. Le sort vous rend, et votre flotte, et vos guerriers. Le seul qui manque à nos vœux, nous l'avons vu nous-mêmes s'abîmer au milieu des flots. Ainsi, le ciel accomplit le présage de votre mère. » Il achevait à peine, quand soudain, la nue qui les cache s'entr'ouvre, et s'évapore dans les airs diaphanes. Énée paraît alors, et l'éclat de ses traits efface l'éclat du jour. À son air, à son port, on l'eût pris pour un dieu. Vénus elle-même se plut à l'embellir. Vénus, d'un souffle divin, donne à ses longs cheveux une grâce nouvelle, fait briller sur son teint les roses de la jeunesse et mêle un charme ineffable au feu de ses regards. Telle une main savante prête un nouveau lustre à l'ivoire, tel rayonne l'argent ou le marbre de Paros, incrusté d'un or pur.